du Social Lab, et ça c'est avec vous. Salutations Valère Coréard.
Salut Eric.
On va faire un point ce matin sur la réparabilité des objets par opposition à l'obsolescence programmée.
Voilà, alors l'obsolescence programmée qui a maintenant un cadre juridique, hein, je le rappelle, à toute fin utile, on parle de l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. Donc, un téléphone sur lequel on ne peut plus faire une mise à jour, hein, ça nous est tous arrivé, ou presque des pièces qu'on laisse fragiles en connaissance de cause, des cartouches qui contiennent encore de l'encre mais qui sont déclarées vides par l'imprimante, eh bien tout ça, ça peut être de l'obsolescence programmée. On parle d'un délit mais qui reste très difficile à prouver. Or, derrière cela, il y a quand même des consommateurs qui sont lésés et puis une planète hein, qui en prend aussi pour son grade avec Eric. 40 millions de biens jetés chaque année en France suite à une panne.
Et il y a d'ailleurs un indice de réparabilité qui vient de voir le jour.
Voilà, avec un nouveau logo, une note sur 10 et 5 catégories d'appareils concernés donc par ce nouvel indice. Des tondeuses à gazon, ça peut intéresser Patricia Martin, je sais qu'elle adore tondre. Des ordinateurs portables, les lave-linges, des smartphones ou encore des télévisions. Alors avec une note obligatoire pour informer le consommateur en fait avant l'achat, à la base plusieurs critères comme la disponibilité de la documentation, la démontabilité, la disponibilité des pièces détachées ou encore leur prix.
Est-ce que cet indice de réparabilité peut être vraiment efficace contre l'obsolescence programmée ?
Écoutez, en tout cas, il va participer à responsabiliser tous les acteurs dans cette direction, faire durer les produits et arrêter de jeter. Pour autant, les dispositions de la loi sur l'économie circulaire qui a en fait mis en place cet indice ont été critiquées, notamment pour les sanctions encourues. C'est 15 000 euros par produit en cas d'absence d'indice ou d'indice mal calculé. C'est-à-dire un petit détail pour des gros industriels. Ça passera donc sans doute par la case name and shame, c'est-à-dire dénoncer, faire savoir pour la honte, la controverse et puis bien sûr l'implication des consommateurs.
Il existe, outre cet indice, il existe aussi des labels sur la durabilité des produits.
Oui. Comme le label Long Time qui a une approche globale, fiabilité, robustesse, réparabilité aussi, support technique également, sur le catalogue pour le moment des aspirateurs, radiateurs, des fours électriques, mais des produits qui coûtent aussi leur prix, il faut le dire. Après tout, tout s'explique pour Elsa Lomont, elle est cofondatrice de ce label Long Time.
Il n'y a pas de secret, la qualité a un certain prix, sauf que quand on achète des produits à premier prix, souvent il y a des choix industriels qui ont dû être faits. Au début, la démontabilité d'un produit, c'est essentiel pour pouvoir, des fois, ne serait-ce que faire de l'entretien, des actes de maintenance sur un produit. On peut pas continuer dans ce gaspillage-là en termes de ressources, en termes de production de déchets. Il y a quand même des enjeux environnementaux qui sont énormes, des enjeux sociaux aussi, puisque c'est souvent les ménages les plus modestes qui sont, on va dire, les premières victimes, puisqu'on va acheter un produit parfois peu qualitatif en raison du prix, et du coup devoir le renouveler assez souvent, ce qui a un impact aussi sur le porte-monnaie, quoi. Après, comme je répète, la qualité a un prix et voilà, derrière ce prix, si vous achetez une machine à laver qui coûte 500 euros et qui vous dure 15 ans ou 20 ans, ou que vous achetez une machine à laver qui va durer que 5 ou 6 ans et qui en coûte la moitié du prix, bon, mais finalement sur le long terme, ça va être quand même plus avantageux au niveau financier de s'équiper dès le départ d'un produit qui est plus qualitatif.
Voilà, comme me disait mon grand-père, il faut souvent avoir les moyens de faire des économies.
Exactement.
Sinon, derrière ce label, il y a aussi une démarche et une raison d'être, lucrativité limitée et intérêt général.
On est déjà enregistré sous format coopératif, on est une SCOP, donc on est une SARL comme n'importe laquelle avec des valeurs en plus. Donc effectivement, il y a la lucrativité limitée et la recherche de l'intérêt général qui anime notre quotidien. Donc voilà, il y avait cette volonté d'être une entreprise sociale, en fait, où on va chercher plus l'impact que l'enrichissement personnel à tout prix, quoi. Et ça, c'est des valeurs qui nous semblaient indispensables pour porter un outil comme Long Time.
Voilà, on appelle ça la cohérence. Et sinon, l'entretien en version longue d'Elsa Lomont est à retrouver sur l'infodurable.fr.
Et votre chronique, le Social Lab, Valère Coréard, évidemment, sur franceinter.fr.